France Inter, il est 17h07 et c'est maintenant, si tu écoutes, j'annule tout. Bonsoir Charline Van Anecker.
Bonsoir, et avec Dominique. Zurek. Oui, bonsoir Dominique Delaroa.
Bonsoir.
On n'est pas seul. On est en direct du Salon
Exactement,
du Livre.
Voilà. Il y a du lecteur.
Sur un stand France Inter, Radio France édition magnifique. Et voici comment nous avons préparé cette émission. Salut les amis.
Salut Charline.
Allez, préparez-vous parce qu'on va au Salon du Livre.
Chouette. Génial.
Alex, calme-toi s'il te plaît. Mais t'aimes autant la lecture?
Ça m'étonnerait, le dernier truc qu'il a lu attentivement, c'est le menu de la cantine.
Mais oui, qui était très bien écrit par ailleurs.
Moi, je suis un fou de lecture, moi.
Ah mais non, mais moi, je suis hyper content parce qu'on va enfin pouvoir l'inviter.
Ah, mais je vois, Alex a raison, on va recevoir la star du salon.
Ah oui, on va recevoir l'un des plus grands écrivains de son temps.
Mais bien sûr, oui.
L'un des plus grands écrivains maghrébins de son temps.
Oui, mais merci Charline, merci.
De rien.
On va enfin rencontrer Nabila.
Moi, je suis un fou des livres de Nabila.
Hein, mais non, non. On reçoit Tahar Ben Jelloun.
Mais qui
ça? Mais Charline, t'avais dit une star.
Mais oui, mais regarde dans le programme, samedi 18h30 sur le stand J'ai lu, dédicace de Nabila.
Mais oui.
Ah bon, son éditeur, c'est J'ai lu.
Oui.
Bah ça, comme ça, il y aura au moins l'éditeur qui l'aura lu, quoi.
Mais ouais. Non, mais Charline, mais c'est elle, la star. Dans la presse, ils disent que la sécurité sera renforcée pour sa venue.
Mais oui.
Mais c'est mieux pour protéger les gens, hein.
Mais non, mais c'est pour sa sécurité à elle.
Ah bon? Mais oui. Qui c'est qui donne des coups de couteau dans le
fond? Ah, je suis moins fou des coups de couteau, moi.
Allez, Charline,
allez, on lui parlera de la syntaxe mais dans son œuvre.
Oui, l'utilisation du subjonctif.
Bah, bien sûr, et puis de la récurrence intempestive du mot lol. Je vous le dis clairement, si on invite Nabila, je viens pas. Merci, bisous, merci.
Ah bah, moi, je suis un fou des merci, bisous, merci, moi.
Bah, merci.
Bah t'as oublié bisous, merci.
Oui, alors ça va être terrible ce Salon du Livre.
T'inquiète, Charline, je suis là.
Ah, Frédéric Frobet, toi, moi, tu vas être à la hauteur. Tu vas mettre en valeur les livres.
Bien sûr, je compte faire une chanson sur Christine Bouquin.
Ah, oh. Je suis consternée.
Tu vas voir, là, elle va dire heureusement qu'il y a le public du Salon du Livre.
Elle fait toujours ça, ouais.
Moi, je suis un fou du public du Salon du Livre.
Heureusement, il va y avoir le public du Salon du Livre. Bonjour le Salon du Livre et son public. Vous écoutez l'émission qui passe l'actualité au mixeur et voici les trois informations qui vont éclabousser les murs parce qu'Alex a oublié de mettre le couvercle.
Oui.
Quand on ne trouve plus les mots pour décrire la situation politique, on s'en remet à l'écrivain, à celui qui écrit des tribunes dans la presse ou à celui qui parfois consacre tout un roman à la politique.
Comment tu écris, suspicieux? Mais pourquoi? Parce que je crois que ce personnage va être suspicieux à propos de tout.
Qu'est-ce qui fait qu'on s'identifie comme belge, français ou marocain? La naissance? La langue? Les traditions? Bon, pour le français, cherchez pas, on sait, c'est les traditions.
Pardon, monsieur, la rue Gustave Flaubert, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert?
Ça ne me regarde pas, monsieur.
Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande.
Les ateliers d'écriture deviennent très courus, mais peut-on apprendre à écrire un roman? Et tiens, d'ailleurs, quelle est la motivation pour écrire un roman?
La plume est plus forte que l'épée.
Et pour m'accompagner, voici celui qui ne partira au combat qu'avec un cheval blanc, mais le vin, bien sûr, c'est Alex Vizorek.
Bonjour Charline Van Anecker et bonjour au public du Salon du Livre. Ouais, ils étaient plus en forme au 104 hier, je vous mets la pression. 17h20, il est là. 17h20, c'est un horaire beaucoup plus sûr pour lui, puisque 20h40, ça l'est moins. Et on ne programme, nous, jamais l'actualisique. Bonjour Thomas VDB.
Bonjour Alex Vizorek.
Comment
va? Bonjour public du Salon du Livre, évidemment. Ça va très bien. Aujourd'hui, je vais parler du grand retour des punks avec les candidats anti-système.
Très bien, 17h30, celui qu'on nous demande tous les jours de déprogrammer car il dérange. Mais rassurez-vous, il nous dérange à nous aussi. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors évidemment, chronique littéraire aujourd'hui, hein, puisque je vais vous parler d'un bel ouvrage, le livre Révolution d'Emmanuel Macron.
Très bien.
Mais oui, car vous cultivez, c'est quoi?
C'est notre projet.
Bien évidemment.
17h40, celle qui est ici chez elle, le Salon du Livre. Il n'y a bien qu'à la Biennale Viticole de Saint-Étienne qu'elle se sente aussi bien. C'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour tout le monde. Bah bon. Moi je vais parler d'un vrai auteur, d'un vrai écrivain.
D'accord, pas
aimé. Voilà.
Et 17h55, notre guitariste est là, et donc un guitariste, il est potentiellement le prochain prix Nobel de littérature. C'est Frédéric Fromet.
Et je me tourne vers celui qui va présider notre assemblée. Vous êtes l'écrivain francophone le plus traduit au monde. Vous démarrez comme pigiste au journal Le Monde, justement en 73. En 87, vous obtenez le prix Goncourt pour votre roman La Nuit Sacrée. Vous avez notamment écrit Le racisme expliqué à ma fille, L'islam expliqué aux enfants. Vous êtes membre du jury Goncourt depuis 2008. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes...
Tahar Benjelloun.
Charline Van Linker, Alex Bizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Bonjour Tahar Benjelloun.
Bonjour Charline, bonjour.
Pendant ce qu'est-ce que vous avez dit, je suis Nabilo.
Tout à l'heure.
J'ai trouvé ça drôle.
Tout à l'heure, mais personne n'a relevé. Très bien,
si,
Alex.
Si, j'ai trouvé ça très drôle.
Tahar Benjelloun, voilà que sort une anthologie.
Un quarto.
Un quarto, oui, chez Gallimard. Vos romans, alors 11 romans. Oh oui, pas tous, parce que là,
non, pas tous. Il y aurait deux volumes.
Il y aurait plusieurs quartos, c'est sûr. vous expliquez au début de cette anthologie, vous faites la métaphore avec la construction
d'une maison.
D'une maison, exactement. Alors, quelle serait la porte d'entrée de cette maison dans cette anthologie, parmi Arruda, La Réclusion Solitaire, L'Enfant de Sable, La Nuit Sacrée, Partir au Pays par le Feu?
L'entrée, d'abord, c'est la petite autobiographie que j'ai écrite au début, il y a les 100 premières pages, où je raconte ma vie, où je ne sais pas quelle année je suis né, où je ne sais pas comment j'ai fait pour obtenir mon premier passeport, où je ne sais pas comment je suis arrivé en France, etc., etc. Donc je raconte tout, et puis je raconte les gens qui m'ont aidé, les gens qui m'ont repoussé. Enfin bref, c'est une autobiographie qui prépare un peu à l'entrée de ces romans.
C'est par là qu'on commence, avec de nombreuses photos. Mais vous êtes pas mal en maillot de bain, hein, je dois vous le dire.
Ah ouais, mais c'est drôle.
Non, mais c'est aussi un argument de vente, hein, je me signale.
Moi, j'ai une question. Oui. Un écrivain, quand il fait ce genre d'ouvrage, est-ce qu'il se relie? Est-ce qu'il relie l'écrivain qu'il a été il y a 30, 40 ans et comment il se juge?
Ah non, si je me relis, je me suicide, c'est pas possible.
Non, faites pas ça.
Non, il faut pas. Enfin, je peux pas. Une fois que le livre est publié, ça y est, je l'oublie et je passe à autre chose.
Vous ne vous êtes
jamais
relu.
Denis de la Ferrière qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a réécrit tous ses livres. Ça, c'est quelque chose que je pourrais jamais faire.
Tahar Benjelloun, il y a trois thèmes récurrents dans ces 11 romans. Vous les avez assemblés parce qu'il y a trois thèmes. Il y a le Maroc, la condition de la femme et l'immigration. C'est vraiment la trilogie de thèmes.
Je me suis rendu compte que finalement, quand un écrivain est témoin de son époque, il voit ce qui se passe, où j'arrivais en France, personne ne parlait d'immigration. Mais je me suis rappelé que quand même, je viens du Maroc où la femme n'était pas dans les meilleures conditions, elle n'avait pas les droits qu'il fallait, etc. Et j'ai écrit mon premier livre, Arruda, qui a été publié par Maurice Nadeau en 73. C'était un peu sur le destin d'une prostituée et qui va symboliser la libération de la femme dans le Maroc des années 50-40.
Juliette Arnaud, vous qui avez d'ailleurs grandi au Maroc.
Oui, c'est vrai.
Oui, mais on se connaît.
On n'a pas d'intérêt en commun. Hein. On a juste partagé un peu du Maroc.
C'est important quand même.
Oui, c'est très important. Non, mais je me posais justement une question. C'était, est-ce que vous trouvez qu'il y a une chose qui relève de la régression concernant la situation de la femme en France?
Ah non, la France quand même, c'est un pays où les combats se continuent. Et non, la France quand même, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au Maroc.
Ah non, avec le Maroc, c'est certain.
Mais en France, en France, c'est quand même un pays, une grande démocratie, avec des moments difficiles comme en ce moment. Des moments très difficiles parce qu'il y a une régression, non pas de la condition de la femme. Il n'y a pas la parité, elle n'est pas bien payée comme l'homme, etc. Mais il y a une régression des idées, une peur de l'autre, une peur de tout ce qui vient de l'extérieur. Et les hommes politiques, avec une femme politique en particulier, jouent énormément sur ces peurs, sur ces ignorances pour avancer et pour avoir des voix.
Tahar Benjelloun, vos livres, ils sont lus dans des pays où même vous n'avez jamais mis les pieds, non? Il y a 37 pays, je pense, vous êtes traduit, c'est incroyable.
45. Alors, il y a un pays extraordinaire qui n'existe pas, c'est l'espéranto.
Ah oui?
Mais ils ont une adresse, c'est à Rotterdam.
Et vous êtes tenté de traduire en espéranto?
Non, je suis traduit en espéranto.
Ah, ça y est.
Et longtemps.
Mais là, vous ne pouvez pas mettre les pieds, c'est sûr.
Quelque chose d'aberrant pour un écrivain d'être traduit dans une langue que personne ne comprend?
Oui, mais ça a été pour moi un choc. Et après, je me suis dit, mais où ils sont ces gens-là? Ils sont 2000. Ils ont fait un 2000. Tirage de 2000.
C'est tout parti. Vendu, tout vendu.
Bien sûr, parce que ils sont les seuls à parler d'espéranto. Ben, en braille, non, en braille, quand même, c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui déchiffrent le braille.
Voilà, c'est la collection Quarto hein, chez Gallimard, Tahar Ben Jelloun, 11 romans assemblés, une anthologie. Et Tahar Ben Jelloun, vous êtes avec nous sur France Inter jusqu'à 18h, en direct de où ? D'une espèce de grosse foire qu'on appelle
Maroc,
salon.
Et le Maroc est l'invité d'honneur.
Maroc invité d'honneur, vous êtes sur France Inter. Cadillac and watch for the hymn. Jukebop, baby, jukebop, baby. Jukebop, baby, jukebop, baby. Jukebop, baby, jukebop, baby. Little lady, says my name. Jukebop, baby, playing a strange game. Fly, drop a play, I'm looking for fame. Jukebop, baby, jukebop, baby. Jukebop, baby, jukebop, baby. Jukebop, baby, jukebop, baby. Coming home to us, where I stay. Hotshot gambler looking for play. Jukebop, baby, jukebop, baby. Jukebop, baby, jukebop, baby. Jukebop, baby, jukebop, baby. Le public du Salon du Livre.
Oh, il se chauffe ce public.
Il se chauffe. Nous sommes en compagnie de Tahar Ben Jelloun. Et justement, le Maroc, effectivement, est à l'honneur de ce Salon du Livre. Vous êtes à la porte de Versailles, à Paris. Et pour entourer Tahar Ben Jelloun, Alex.
Eh bien, le retour de Thomas Védébé, Guillaume Meurice, qui a lu du Macron, oui. Et Juliette Arnaud, qui a lu des vrais livres.
Et c'est le moment de se réinformer.
Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train.
Vous mentez. Le journal de presque 17h17.
Ça vous reprend.
C'est un mensonge.
Et on commence par les titres.
Daesh a revendiqué l'attaque de Londres via son agence de propagande.
Daesh, en ce moment, il revendique que tout ce qui nuit à la démocratie, ils hésitent à revendiquer la campagne de François Fillon.
François Fillon, justement, qui se compare à Pierre Bérégovoy, ancien Premier ministre, qui s'est suicidé.
Ah oui, non, ça, il ne doit pas faire ça. La religion interdit le suicide. S'il se loupe, il perd le soutien de sens commun et c'est foutu.
C'est juste, c'était brève.
Mais oui, parce que on est au Salon de la Brève, livre virgule.
Oh là là. Il y a un jeu de mots.
Oui, c'est Frédéric Fromet qui me l'a soufflé. Commençons par François Fillon qui, hier, a affirmé avoir rendu les costumes offerts par Robert Bourgi.
Ah, mais il n'a pas rendu sa femme.
Ah non, 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 non. Mais franchement, un ami vous fait un cadeau et vous, vous le rendez, c'est très goujat, je trouve.
Bah, cela dit, c'est bête.
Qu'est-ce qui est bête?
Bah, rendre des costumes sur mesure.
Ah bah oui, personne ouais. Pourra les réutiliser, c'est complètement con.
C'est sûr, j'espère qu'avant de les rendre, il a pensé à les amener au pressing. François Fillon toujours, qui a...
Il les avait mis, c'est vrai, il a dit qu'il les
avait mis. Il a dit qu'il les avait mis.
C'est extraordinaire ça.
Mais ouais.
Qu'est-ce qu'il va en faire maintenant? Il va les donner au Secours Populaire.
C'est pas mal. Il faut rentrer dedans.
Ils ne verront pas peut-être les accepter là.
Ils sont sales et sur mesure. Alors dites donc.
On va en faire un sujet 1 parce que je sens que ça passionne.
Vous trouvez un fillon pauvre. Lui donner.
La même tête, un peu de pognon dans les poches.
Tard, ben, on vous engage. François Fillon, toujours, qui a osé une comparaison avec Pierre Bérégovoy.
Ils sont forts à droite. Parce qu'à l'époque, Tibéri faisait voter les morts. Fillon va plus loin et il les convoque pour faire campagne. Chapeau.
Et selon Xavier Bertrand, président LR des Hauts-de-France, François Fillon doit passer à 4 meetings par semaine.
Ouh, ça sent la hausse du chiffre d'affaires pour Big Malion.
Passons à Jean-Yves Le Drian, qui a déclaré « Je soutiens Emmanuel Macron, mais je reste socialiste ».
Et après, il a dit « Je suis vegan, mais je me ferai bien une petite côte de bœuf ».
Mercredi soir, Jean-Luc Mélenchon était à l'ESSEC, la célèbre école de commerce, et il a été ovationné par les étudiants.
Donc demain, quand Nabila va venir dédicacer, vous allez me faire le plaisir de l'ovationner, s'il vous plaît.
Sondage à présent, il confirme une remontée de Nicolas Dupont-Aignan dans les sondages qui serait désormais installé autour des 5% d'intention de vote.
Ça, c'est depuis qu'il est passé chez Hanouna à Touche pas à mon poste. Alors autant vous dire que quand il va faire les Marseillais sur W9, il est foutu être au second tour, ce coquin.
Passons à cette vidéo diffusée sur Facebook.
Oui, plusieurs personnalités françaises d'origine asiatique dénoncent les clichés qu'ils entendent tous les jours au sujet de leur communauté.
Par exemple, quand on les appelle Bruce Lee ou Jackie Chan.
Oui, non, mais encore ça, ça va. Mais il paraît qu'il y a des personnes qui les traitent de Jean-Vincent Placé. Et ça, c'est très dur.
Ouais, mais international, Ivanka Trump, la fille du président américain, a désormais son bureau au sein de la Maison Blanche, alors qu'elle n'est même pas employée par le gouvernement.
Bam ! Bruno Leroux, prends ça ! T'es un amateur, mon pote.
Santé, deux crèmes anti-âge potentiellement dangereuses ont été retirées du marché par l'Agence nationale de sécurité du médicament.
Oui, mais excusez-moi, mais si ce sont des crèmes mortelles, finalement, est-ce qu'elles ne remplissent pas leurs promesses ? Parce qu'elles empêchent ses utilisatrices de vieillir. Donc,
Football, écarté des Bleus, Karim Benzema aimerait avoir une discussion avec Didier Deschamps. Il trouve sa non-sélection très injuste.
Oui, mais qui pourrait lui donner tort ? En France, quand on est mis en examen, on peut se présenter à la présidentielle, mais on peut pas être sélectionné en équipe nationale. C'est complètement con.
L'actrice Angelina Jolie a rencontré l'archevêque de Canterbury.
Oui.
Et sur les photos de l'entrevue publiées sur Twitter, elles ont beaucoup fait réagir les internautes, car la star ne portait pas de soutien-gorge.
Ça va. C'est un homme d'église. Angelina a 41 ans. Elle risque rien.
Elle est trop vieille.
Mais oui.
Allez, quelques brèves.
Oui, un couple de Sevran en Seine-Saint-Denis a reçu une facture d'eau de 1,2 million d'euros. C'est Bruno Retailleau apparemment qui aurait relevé les compteurs.
Et télévision, Alex, vous avez regardé le jeu de Nagui, tout le monde veut prendre sa place.
Mais oui, mais quelle surprise quand j'ai entendu cette question.
À la radio, qui est l'animatrice de l'émission Si tu écoutes, j'annule tout, dont le titre est inspiré d'un supposé SMS présidentiel.
Mais moi je connais la réponse devant mon poste, mais la fille elle sait pas, alors elle prend le carré. C'est quoi le carré ? Il y a 4 noms parmi lesquels il y a la bonne réponse, alors Nagui lui donne le carré quoi.
Carré.
Sophia Aram, Charlie Vandenecker, Pascal Clark, Juan Roumanoff.
Roumanoff.
Aïe aïe aïe, ça c'est le gros problème avec vous, on vous confond souvent avec Roumanoff.
Mais pardon. Je vais être bonne joueuse et rappeler à tout ce public devant nous que Alex Vizorek a tellement de succès que non seulement il est le dimanche soir à la pépinière.
Oh, vous êtes sympa.
Mais aussi tous les mardis à 19h.
Oui, merci.
Si vous aimez l'art contemporain et la blague
et les brèves,
c'est fait pour vous. Tahar Benjelloun est entre nos mains, j'allais dire.
Oh, ça y est, dites
donc,
je suis là.
Je suis tout émoustillé. J'ai dit entre nos mains. Je vous touche là. Vous... Oh, c'est du tweet, c'est quoi ça ?
C'est du cachemire, c'est un ami qui l'a offert. Je vous assure, je vais pas la rendre.
Vous la rendez pas,
celle-là ? Parce que non, je la rends pas, là. Elle est trop bien.
Vous avez raison, elle est très jolie. Ça tient chaud, non ? C'est bien, ça. Hein ?
C'est très bien.
Oui, c'est très bien. Tahar Benjelloun, on va profiter de votre présence. Il est déjà 17h25 sur France Inter. Et 17h25 à Caudebec-les-Évreux, en Normandie, où une rue porte votre nom.
Ça, c'est la classe.
Premier sujet, le climat politique nous laisse sans voix. Et pourtant, il faudra bien qu'on l'exprime. Alors, on se raccroche à ceux dont le métier est de trouver les mots, les écrivains. Parfois comme Christine Angot, hier soir sur France 2. L'écrivain fait face aux politiques pour lui parler autrement, pour dire ce que le journaliste ne peut pas dire. Par exemple, l'écrivain, lui, bon, il peut dire ça, par exemple.
Est-ce que vous savez à quoi on reconnaît un gros con de droite d'un gros con de gauche ?
Non. Quand vous chiez. Vous avez beau chier proprement, tirer la chasse et tout. Très souvent, dans la cuvette, il y a de la merde qui reste. Collée. Cette merde qui reste, qu'est-ce qu'il en fait, le mec de gauche ? Il la nettoie. Il prend le balai à chiottes, il la fait disparaître. Alors que le gros con de droite, qu'est-ce qu'il fait ? Le gros con de droite, il laisse sa merde et il se débile. Il s'en occupe même pas. Il y a des gens payés pour ça, des gens qui passent derrière.
Philippe Noiret dans Les Côtelettes de Blier. Tahar Benjelloun, est-ce que pour parler de la chose politique, il vaut mieux que l'écrivain s'exprime par l'écrit, son métier, ou est-ce utile parfois qu'il soit confronté aux politiques à l'oral aussi, dans la joute verbale ? Est-ce que ça peut apporter
quelque chose ? On peut effectivement affronter un homme politique, mais hier j'ai trouvé Angot un peu nerveuse et maladroite. Il aurait pu rester très calme, parce que lui était calme, le Fillon, il a l'habitude. Et là, attaquer, il était agressif, et finalement le message n'est pas passé à mon avis. Elle aurait dû se dire les choses calmement, et l'histoire de son bracelet était ridicule. Bon, bah, c'est pas ça à mon avis. Ce qui était important, c'est de confronter vraiment le Fillon à une parole d'un écrivain ou d'une écrivaine, et qu'elle lui dise les choses qu'il n'a pas l'habitude d'entendre. Parce qu'effectivement, par exemple, hier, Pujadas aurait pu, quand il a dit « j'ai rendu les costumes », il a dit « est-ce que vous avez rendu l'argent ?» Il n'a pas dit, parce qu'il aurait pu le faire dès le départ, dire « voilà, écoutez, il y a un problème, on m'accuse d'avoir donné 900 000 ou je sais pas, 1 million d'euros à mes enfants et à ma femme, je prends cet argent, je le pose à la banque, et si je suis coupable, vous le gardez, si je suis honnête, vous le rendez. »
Non, mais il n'a pas l'argent, il aurait été obligé d'emprunter à ses enfants.
Oui, mais il a fait une ristourne. Il aurait pu demander à M. Leroux.
et Christine Angot, à sa décharge, n'a pas une conseillère en communication dans les loges qui envoie des SMS. Donc c'est plus difficile de.
Il avait un SMS.
Lors du débat, en tout
cas. Est-ce que c'est un exercice qui vous aurait pu vous plaire, celui-là, d'amener une parole citoyenne face à un politique?
Moi, j'aurais pas aimé parler à Fillon, j'ai rien à lui dire. Mais
à d'autres, oui.
Bah, lui mettre une tarte, sinon.
Non, le Fillon ne m'intéresse pas. J'aurais aimé parler à Le Pen, mais j'ai pas envie. Parce qu'il y a tellement de choses.
Il y a tout son contraire dans cette phrase.
Tellement de mensonges, tellement de choses complètement erronées. Elle sécrète la peur, elle a envie de faire peur aux gens. Et mais je n'ai pas envie de lui parler, non. J'irai pas.
Mais l'écrivain peut rester un bon porte-parole de la population, même si on l'imagine toujours un peu dans sa tour d'ivoire, dans sa vigie.
Non, moi je vais dans les écoles, je préfère parler aux enfants. Les enfants sont disponibles, ils écoutent et on investit chez les enfants parce qu'eux, au moins, ils prennent certaines choses, ils vont peut-être les garder ou pas les garder, mais c'est beaucoup plus intéressant de parler à un enfant qu'à un adulte. L'adulte, il est déjà fait. Spinoza a dit « tout être tend à persévérer dans son être », c'est-à-dire qu'il ne changera jamais. Et c'est vrai qu'on voit les adultes, on a beau leur parler, ils ont toujours la même attitude, ils ne changent pas. Les enfants sont disponibles.
Les adultes sont des cons, on le voit, il y en a plein devant nous.
Non, enfin, nous sommes tous comme ça. Nous sommes tous comme ça.
Tahar Benjelloun est avec nous. La collection Quarto chez Gallimard, c'est 11 romans rassemblés, l'anthologie Tahar Benjelloun et cette sage parole qui est avec nous jusqu'à 18h. Autre parole un peu moins sage, celle du retour de Thomas VDB.
Et de l'actualité.
Ouais. Je suis François Fillon, je suis un anti-système, comme Emmanuel Macron et comme Marine Le Pen, je suis un rebelle et candidat pour être président de la République française.
Oh là là, oh oui, ouais, ça nous avait manqué.
Voilà, j'ai choisi aujourd'hui de faire souffler un vent d'insurrection avec mon générique, parce que je trouve que ce morceau des Sex Pistols résume assez bien le projet politique de la plupart des candidats. Parce que finalement, entre les candidats, il y a un point commun, et ce point commun, pardon, mais c'est l'antisystème. Antisystème, tu perds ton sang-froid ! Voilà, ça marche aussi comme ça. Ils sont tous tellement antisystème, finalement, que je comprends pas que pour tirer son épingle du jeu, il n'y en ait pas un qui a eu l'idée de faire sa campagne entièrement autour du fait qu'il était pour le système. Tous avec moi pour le système, on va dans le système. Voilà, il n'y en a pas eu un seul qui a eu cette idée-là. Alors moi j'ai regardé le grand débat cette semaine et c'est fou que ça leur soit pas venu à l'idée, parce que c'est la première fois qu'ils étaient tous ensemble réunis dans une pièce, de faire des compromis pour se mettre tous d'accord et se dire voilà, on arrête de s'engueuler et puis voilà, on sort pas de cette salle si on n'a pas réussi à trouver un projet ensemble, ou peut-être, je sais pas, se mettre d'accord pour dire qu'on a quand même le droit, par exemple, d'être président même quand on a des casseroles au cul. Mais je pense qu'apparemment si, en fait, c'est quand même ce qu'ils ont fait et ce qu'ils se sont vraiment dit. C'était tellement anti-système, ce grand débat. Moi, j'ai eu un peu l'impression d'assister à une reformation de Rage Against the Machine. C'est vrai qu'ils ont des cravates et des costumes, mais dans leur tête, les mecs, c'est des punks. C'est les gros déglingos, les gars.
François Fillon, par exemple, bah, il est anti-système. Bon, il est anti-système judiciaire, mais il est anti-système. ce refus permanent de se soumettre à l'autorité.
Bah ouais. Dans le salon du livre, applaudit.
Ce refus permanent de se soumettre à l'autorité. Le mec avait dit quand même, si je suis mis en examen, je renoncerai. Eh ben, ça tombe mal, François, parce que tu es mis en examen. Ah ouais. Eh ben, annulé, phrase annulée. Eh ouais. Fuck the système. Bravo, François, on n'y avait pas pensé. Quel punk, ce François Fillon. Vous savez qu'il s'est fait tatouer dans le dos le A de anarchie. Il s'était déjà fait tatouer son RIB, parce qu'il a besoin de jamais oublier son numéro de compte, mais à côté, il s'est fait tatouer le A de anarchie. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il pense enregistrer une reprise des Clash du célèbre tube qui s'appelle Should I Stay or Should I Go, et s'appelle Should I Stay or Should I Stay. Should I Stay or Should I Stay? I don't think that I have to go. C'est sa version. Marine Le Pen, pareil. Marine, va voir les juges, s'il te plaît. Non, j'irai pas. Voilà, incroyable. Quel punk elle aussi. On dirait un peu Marine Le Pen, on dirait un peu Charlotte Gainsbourg dans l'Effronté. Elle gueule sur tout le monde, elle est en conflit perpétuel avec son père. On dirait une fan de Nirvana en 1991. Mais avec des idées de 1691. Et c'est là qu'elle nous étonne toujours. Manu Macron, bah, il a une tête à jouer dans Les Choristes. Donc c'est bien. Bah oui, mais on sait bien que dès qu'il arrive sur scène dans un meeting, le gars c'est Johnny Rotten. S'il faut s'égosiller, on s'égosillera, il a pas peur. La dernière fois au salon de l'agriculture, on a vu la vidéo où il se prenait un œuf sur la tête. Moi, j'ai vu une autre vidéo des instants qui ont suivi. On le voyait qu'il se faufilait dans un coin. Il s'est fait une crête avec le blanc d'œuf. Si c'est pas punk comme attitude, je sais pas ce que c'est. Mais cela dit, je dis ça, mais c'est vrai que les socialistes étaient déjà anti-système, un peu à leur façon. Quand je regarde Manuel Valls, il fait penser à un rebelle. Bah, pour moi, c'est un gars du 9-3. Alors, il y en a d'autres qui diront, oh, c'est plus un gars du 49-3. C'est vrai aussi. Mais c'est une forme de rébellion quand même. François Hollande, on vient d'apprendre que ça fait 5 ans qu'il est dans un groupe gothique punk qui s'appelle Cabinet Noir. Bon, le nom est un peu pourri, mais voilà, c'est quand même... C'est les gars, ils savent où ils vont. Voilà, en réalité, je pense que quand tu es anti-système en politique, l'astuce, c'est de ne pas préciser le système contre lequel tu es. En réalité, je pense que Emmanuel Macron, ça tombe, il est juste contre le système métrique. Voilà, ok. Marine Le Pen, il y a un truc qui la fout en rogne, c'est le système solaire. Eh ben c'est pas grave, ça compte aussi pour anti-système. Merci les amis.
Merci Thomas VDB, en direct du Salon du Livre, Porte de Versailles, à Paris, avec Tar Benjeloun qui nous accompagne jusqu'à 18h. Valois sur France Inter, programmation musicale Djoubaka, au Salon du Livre avec Tahar Benjeloun. 11 romans, l'anthologie Tahar Benjeloun, collection Quarto chez Gallimard. Il est avec nous jusqu'à 18h et à ses côtés,
oui.
Il a le trublion Guillaume. Oh, il est trublion. C'est un mot qui date de quel siècle, ça? C'est Guillaume Meurice.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors, une fois n'est pas coutume, chronique littéraire. Merci pour les deux applaudissements. C'est vraiment un succès d'estime. Merci, merci. Chronique littéraire avec mon conseil lecture du jour. Coup de pouce à un jeune auteur qui a pour muse une certaine Bribri. Il s'appelle Emmanuel Macron et son livre s'appelle Révolution. Sorti le 24 novembre dernier, le lendemain mourait Fidel Castro. Coïncidence? Je ne sais pas. En tout cas, un livre fort, un livre sans concession. Le parcours et les ambitions d'un enfant terrible, un mec à qui la vie n'a pas fait de cadeau, hein, clairement. Enfin, sauf une cuillère en argent dans la bouche à la naissance, mais à part ça, vraiment aucun cadeau. Le style est très novateur, je dirais à mi-chemin entre « Oui, oui, fait de la politique » et le catalogue du chasseur français rubrique « Comment attirer des pigeons ». J'ai voulu savoir ce qu'en pensaient les professionnels du livre. Je me suis rendu directement ce matin au stand Rebelle Édition, qui existe vraiment, hein, là vraiment on est dans le thème. Qu'est-ce qu'on y pense d'Emmanuel Macron ?
Je ne savais même pas qu'il l'avait écrit. En fait, je suis un petit peu en marge de la France en ce moment.
En marche ?
En marge. En marge.
Ah, en marge. En marche. Ah oui, parce qu'Emmanuel Macron, il est en marche.
Il marche à côté.
Oui, oui, oui. Ben, il a de la chance.
Ah, hein. Il a de la chance. Il a de la chance. Et nous, avec, de pouvoir compter sur un vrai libérateur du peuple. En marche, voilà, avec Jean-Yves Le Drian, Pierre Berger, Alain Minc. Donc, en marche avec un déambulateur, quand même. Oui ?
Pierre Berger est dans une petite voiture.
Dans une petite voiture, oui. si vous voulez. Ouais, j'avais déambulateur comme van,
pourquoi
mais peut-être la vôtre est mieux.
Pourquoi une petite voiture?
Bah parce qu'il ne peut plus marcher.
Ah,
vous donc toucherez des droits d'auteur.
Vous balancez sur cette... Star Benjelloun.
Mais non, mais on l'a vu dans l'émission Stupéfiant. Là,
il était... Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il n'y a que des forces vives hein, chez Macron.
Ben on le salue, en tout cas. Hein, si, voilà, s'il nous entend avec son sonotone.
Il est très généreux et formidable.
Bah oui, on le salue, on l'embrasse.
Certainement, certainement. On l'embrasse, faut parler fort parce qu'il n'entend plus très bien. Alors, chez Rebelle Édition, d'ailleurs, on a une dernière nouveauté littéraire. Une histoire qui concerne quoi ?
Qui concerne un homme qui travaille trop, qui travaille tellement, qui finit par oublier sa famille, ses amis, sa maison, qui ne vit que dans son bureau.
Non mais ça, c'est exactement le programme d'Emmanuel Macron, du coup.
Ah ben voilà.
Est-ce qu'il est mal payé dans son boulot ?
Disons qu'on a soit une vie de famille, soit une vie professionnelle. On ne peut pas avoir les deux.
C'est exactement le programme de Manu. Hein, puisqu'on le sait, pour Manu, bosser jusqu'à 23h30 au McDo pour payer ses études, c'est ce qu'il appelle le grand soir, voire le très très grand soir. Alors là, on était vraiment dans le cadre de la révolution, de la rébellion. D'ailleurs, pourquoi la maison d'édition s'appelle Rebelle ? Il doit certainement y avoir une idée forte d'émancipation et de résistance.
Alors, Rebelle, ça vient du chien de l'éditrice qui a perdu son chien et qui a mis le nom de sa maison d'édition en souvenir.
Bon, ouais, là on est plus proche de Rintintin que de Louise Michel quand même. Mais bon, on peut pas taper juste à tous les coups. Alors, pour rentrer vraiment, je dirais, dans l'objet littéraire, je vais vous lire un petit extrait. Alors, Emmanuel Macron dit « Entrer dans ce nouveau siècle exige de savoir réconcilier ce que nous sommes profondément et ce que nous devons devenir ». Là, ils prennent une grosse claque dans la gueule, hein, le public du Salon du Livre. C'est d'une beauté, mais alors, est-ce que ça veut dire quelque chose ? C'est la question vraiment qui se pose. Alors, je suis allé demander à la maison d'édition Le Temps des Cerises. Eux, ils s'y connaissent en lutte révolutionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est un peu bizarre comme phrase.
Ça veut rien dire, c'est de la poésie, peut-être ?
Ah, peut-être, oui. S'il fait de la poésie, là, on change de registre.
Ah, ben voilà, c'est un poète.
Ah, c'est un poète ?
Mais les révolutionnaires sont des poètes.
Oui, mais lui, il n'est pas révolutionnaire, donc il n'est pas poète.
Si, regardez le nom de son bouquin.
Ah, ouais.
Ah bah oui, quand même. Il en reste sans voix. Et en plus, j'invente rien. Page 13, il cite qui, Emmanuel Macron ? Il cite Léo Ferré, figurez-vous. Il cite pas Hervé Villard, hein, je suis désolé, Alex. Il cite pas Jack Daniels, hein, je suis désolé, Juliette. Il cite Léo Ferré, si ça, c'est pas un acte d'insoumission. Alors, mais j'ai d'autres arguments, évidemment, hein, pour vous convaincre que ce livre est absolument formidable. C'est la quatrième de couverture, notamment, là où on place de quoi appâter le lecteur. Et regardez ce qu'on y trouve. Et voilà, c'est la photo, la photo de Manu. Voilà, je vois les...
Oh, le beau gosse.
Je vois les cougars qui sont comme des dingues au premier rang. Alors, j'ai parlé de cette photo avec une prof de français.
Bah, en fait, il m'inspire un peu le premier de la classe qui dit « J'ai eu 15 et toi ?» avec un air un peu sournois.
La mauvaise foi ! La mauvaise foi des profs de français. Non, regardez, il est beau, regardez comme il est beau. Il est beau comme un plan social. Il est beau comme une délocalisation, Manu. Délocalisation, d'ailleurs, on devrait dire, hein, parce qu'il est entouré de toute une armée de guerrilleros, comme on dit, en espagnol, bien sûr. J'ai rencontré, d'ailleurs, une des membres de l'armée secrète, et je lui ai demandé pourquoi ce titre de livre.
C'est parce que comme il veut changer dans tous les domaines, que ce soit la santé, l'environnement, l'éducation, le travail, le chômage, et que c'est vraiment un autre positionnement, donc je peux comprendre qu'il l'ait appelé Révolution. Voilà.
Est-ce qu'on peut faire la Révolution avec Jacques Attali?
Jacques Attali, il a été dans la commission Attali au début, là maintenant il s'est émancipé de Jacques Attali. Mais c'est pas une marionnette téléguidée, c'est Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, comme il convient de l'appeler désormais, Manu l'insoumis, Manu l'humaniste. Écoutez bien ce qu'il dit de son passage à la banque Rothschild, hein, âme sensible, s'abstenir. Alors il parle de son métier de banquier. Ce métier n'est pas de manier de l'argent, il ne s'agit ni de prêter ni de spéculer. C'est un métier de conseil, où ce qui a de la valeur, ce sont les hommes. Oh la vache! Excusez-moi, ça m'émeut beaucoup. Explication avec notre nouvelle camarade.
Ce qu'il veut dire, ce travail qu'il a fait chez Rothschild, c'est le travail de rapprochement d'entreprise. D'ailleurs, il a fait des fusions ou des acquisitions.
Donc, il a travaillé sur l'humain.
Oui, je vous dis au sens les équipes. C'est l'équipe d'une première entreprise qui va se rapprocher d'une seconde entreprise, soit en la rachetant, soit en fusionnant.
Mais c'est beau quelqu'un qui travaille à la banque Rothschild, mais pas pour l'argent, pour l'humain. Pour c'est quand même émouvant.
Arrêtez.
Oui, on va s'arrêter là parce que ça m'émeut beaucoup trop cette histoire. Alors je vous laisse en vous rappelant qu'en physique, tout de même une révolution, c'est le fait de tourner en rond en revenant à peu près au même endroit, un petit peu comme faire croire à du neuf avec des vieilles idées finalement.
Guillaume Meurice, merci.
Merci à vous.
Face au public du Salon du Livre, Porte de Versailles.
Moi aussi j'ai un conseil littéraire. Guillaume Meurice, Marc Large, on n'est pas sérieux quand on a 2017 ans.
C'est vrai.
C'est vos textes et ses dessins, et derrière il y a une photo de vous, beau gosse. Plus petite, mais beau gosse quand
oui,
même.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Donc
c'est
voilà,
vrai.
Un livre aux éditions Un Point, c'est tout.
Et Tahar Benjelloun est avec nous, avec son pavé Quarto chez Gallimard. On va aborder ce deuxième sujet avec vous, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a plus parlé, identité nationale. Alors une étude en parle de façon un peu plus maligne qu'Éric Ciotti. Étude relayée dans Philosophie Magazine et dont la conclusion, c'est que pour la majorité des Français, être français, c'est avant tout parler français. Et si je puis me permettre, j'ajouterais se contenter de parler français aussi.
My flowers are beautiful. Très bien, moi je l'avoue.
Your flowers are not beautiful.
Not beautiful. Vous voyez le sens de la négation. My flowers are beautiful et my flowers are not beautiful. Vous voyez, vous voyez. Alors, traduction.
Mes fleurs sont belles.
Très bien. À vous.
Vos fleurs ne sont pas belles.
Voilà. My flowers are beautiful.
Your flowers are not beautiful. Oui,
my flowers are beautiful.
Your flowers are not beautiful.
My flowers are beautiful.
Vos fleurs sont en tarte.
Et c'est leur projet. Le gendarme à New York. C'est une étude réalisée sur 15 000 personnes dans 14 pays par le Pew Research Center qui essaye de déterminer ce qu'est un vrai Français, un vrai Marocain, un vrai Belge. Il y a quatre critères, la langue, les mœurs et la tradition, la religion ou la naissance sur le territoire. Vous, Tahar Benjelloun, déjà, est-ce que vous vous définiriez comment ? Vous êtes francophone, marocain, reptilien, européen ?
Écrivain.
Méditerranéen.
Ah, méditerranéen, ça me plaît. Non, je suis marocain et français, et j'aimerais bien être autre chose, mais je ne peux pas. Mais alors,
et un vrai marocain, franco-marocain, c'est quoi ?
À propos de la langue anglaise, de mon époque, on apprenait le « My tiger is rich ». Et paraît-il que Fillon apprend l'anglais tous les jours avec « My tiger is rich ». Maintenant, ils ont dit « My flower ».
Oui, « My flower ».
Oui, ils sont belles.
«
Beautiful ». Bon, donc ils ont changé. Ils sont pas dans l'événement.
C'est vrai, ils sont pas dans le coup.
C'est quoi être marocain ? C'est être les bras ouverts, hospitalier, généreux, méfiant.
Ouais. Donc c'est plutôt le critère, c'est plutôt les mœurs et la tradition alors.
Oh, mais j'aime bien, vous savez, au Maroc parfois, je me dis, même quand il y a des problèmes, je dis, il y aura une solution. Parce qu'on n'est pas encore tout à fait à 100% un état de droit à 100%, on s'arrange, on se connaît, j'appelle mon cousin, j'appelle mon frère, etc. Donc il y a cet esprit de famille, cet esprit qui nous réunit et qui parfois peut résoudre des problèmes. Mais quand je suis arrivé en France, j'ai souffert un peu pour m'adapter quand même à l'état de droit où il n'y a pas de passe-droit, sauf pour les politiques.
Ah oui, j'allais dire, vous êtes trompé de pays.
Ah non, pas pour moi en tout cas. Pas pour moi. Mais en tout cas, j'aime ce pays.
Voilà, donc le critère de naissance apparaît le critère le moins pertinent, et la religion aussi est un critère secondaire. Bonne nouvelle, je vous renvoie à Philosophie Magazine. Juliette Arnaud,
oui.
Au Salon du Livre,
oui.
Devant Tahar Benjelloun, je vous le laisse.
Laissez-le moi. Dans le préambule de votre recueil, Tahar, vous dites que vous avez dû choisir 11 romans parmi tous ceux que vous avez écrits, donc il a fallu que moi aussi je choisisse un de vos romans, sinon passer la nuit au Salon du Livre, ce qui m'embêterait pas, mais enfin bon quand même. Et donc j'ai choisi au titre, j'ai choisi Le mariage de plaisir. Je vous cache pas, j'ai sursauté en lisant le titre. Jusqu'ici, du mariage, je m'approchais pas. Bon, déjà, ma formation à l'école Brassens fait que la non-demande en mariage, moi, je trouve ça sublime. Alors, voyez-vous, associer mariage et plaisir, moi, j'ai pensé que c'était quand même un peu pervers, hein. Ça me faisait un peu comme la geôle du bonheur, ou le bagne de la félicité, ou le goulag de la joie. D'ailleurs, si on a pris la peine de parler de mariage d'amour, c'est qu'il y a aussi mariage de convenance, mariage de raison, mariage arrangé. Mais enfin bon, l'amour, c'est autre chose. C'est une chose, le plaisir, c'en est une autre. Et effectivement, le mariage de plaisir n'a pas grand-chose à voir avec le mariage d'amour. Le mariage de plaisir n'est pas un vœu pieux. C'est pour de vrai, c'est réel. Alors je m'explique, car je l'ai appris en vous lisant. En fait, le mariage de plaisir, c'est une pratique qui permet aux musulmans, aux chiites en tout cas, de nouer, lors de longs voyages, loin de leur épouse donc, un mariage dit de plaisir, avec une date de début et de fin, et une dot à la dame. Alors c'est tout à fait officiel, bien propre, pour éviter que l'homme en question aille pêcher avec des prostituées. Je parle de concupiscence bien sûr, et pas de pêche au gros. Après, le monsieur y rentre chez lui, y retrouve sa femme, bref, c'est la version musulmane et bien plus ancienne de « What happened in Vegas, stay in Vegas ». Le héros du mariage de plaisir, Amir quitte Fès, sa ville, il part en voyage de commerce au Sénégal. Et là, il noue un mariage de plaisir, donc, avec une femme très belle, intelligente, libre et très noire de peau, Nabou. Ça se passe tellement bien entre eux que l'opération se renouvelle. Plusieurs mariages de plaisir. De plaisir, il y en a de plus en plus, et l'histoire de plaisir devient une histoire d'amour. Et oui, ce sont des choses qui arrivent. Hélas, trois fois hélas, Amir, en ramenant avec lui Nabou pour en faire sa deuxième femme, va connaître avec douleur le racisme de son pays. De façon tout à fait mesquine, je me suis dit que nous, les Français, nous n'avons donc pas le monopole de la connerie. Youpi, youpi, parenthèse fermée. Les choses empirent lorsque Nabou accouche de jumeaux. Il y en a un qui est noir et l'autre qui est blanc. Deux petits enfants innocents qui n'auront pas, de fait, le même destin. Parce que oui, ce mariage de plaisir qui a commencé comme un conte, raconté sur une place publique, devient un roman d'amour sensuel, très sensuel, puis une saga familiale qui commence à Fès, du protectorat à Mohamed V, puis à Hassan II, puis Mohamed VI, et finit à Tanger. C'est alors une histoire tout à fait ancrée dans notre modernité, parce que Tanger change. Et je vous cite, « L'arrivée impromptue des jeunes subsahariens qui avaient raté leur traversée vers l'Europe avait achevé de modifier le visage et le corps de la ville. Quelque chose s'était perdu, certains diraient le charme, d'autres parleraient d'une âme froissée, une mémoire bourrée de trous. » Alors le jumeau noir et son enfant à lui, noir aussi, sont rejetés, repoussés, poussés à douter de leur identité même. Et le drame rôde. Je n'en dis pas plus, c'est péché de tout dévoiler, paraît-il. Alors en fermant le roman, comme beaucoup de Français, parce que nous avons une histoire commune, j'ai pensé que le Maroc me manquait. Et qu'heureusement, il y a vos livres pour le trouver un peu, fermer les yeux, se souvenir de Fès, de Tanger et du plaisir. En fermant ce roman, je me suis aussi dit que le mariage, de quelque genre qu'il soit, et moi, allions rester fâchés. Merci, bisous, merci.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voudrais ajouter une chose, c'est que, en fait, la traduction exacte de Jawaz le Moutahar en arabe, c'est le mariage de jouissance. Pourquoi ? Parce que c'est évidemment un mariage qui est acheté, qui est tarifé et qui est accepté par la religion. Et ce qui arrive à Amir au Sénégal, c'est qu'il va découvrir une sensualité, une sexualité que sa pauvre femme blanche, cousine, etc., mariage arrangé, d'alliance, etc., n'a pas su lui donner. Et alors, il va tomber follement amoureux de cette femme qu'il ramène avec lui, et c'est le drame. Alors évidemment, la première partie du livre, c'est cet amour. La deuxième partie, c'est le racisme.
Il y a la version athée qui s'appelle Pretty Woman, qui est très très bien aussi.
Ah oui, celle-là encore mieux. Encore mieux.
Et le mariage de plaisir est précédé dans le recueil de Le bonheur conjugal. Il faut rappeler que dans cette collection Quarto chez Gallimard, l'anthologie Tahar Benjelloun, c'est 1312 pages, 49 documents. Franchement, le programme de Bruno Le Maire à côté, c'est rien du tout.
Mais c'est moins drôle, surtout.
Bah, évidemment,
c'est un peu chelou. Oh, c'est pas sûr.
C'est vrai, peut-être. Alors, non, je l'ai pas lu.
Allez, on va aborder ce dernier sujet avec vous. Est-ce qu'écrire un roman, ça s'apprend ? C'est une question posée par le supplément littéraire du Figaro hier. En clair, peut-on passer à un CAP d'écrivain, un BEP roman et essai ou un contrat d'alternance ? Les ateliers d'écriture remportent beaucoup de succès et des bouquins sur l'art du roman sont publiés. Voici le résultat d'ailleurs de cet apprentissage sur un novice de la littérature.
L'homme tronc, qui est un roman de Patrice Méchain, n'est pas, comme vous pourriez le supposer, l'histoire d'un homme privé de ses membres inférieurs, n'est-ce pas ?
Non, pas du tout. Il ne s'agit pas d'un cul-de-jatte, c'est un véritable homme tronc.
Oui. Voulez-vous nous dire ce que vous entendez exactement par homme tronc ?
Au début du roman, mon héros est un homme absolument normal, et puis peu à peu, il se transforme en arbre.
Et à la fin de votre roman, il s'est transformé complètement ?
Non, pas complètement. Il n'est arbre que jusqu'à la ceinture.
Pourquoi n'êtes-vous pas allé jusqu'au bout ?
D'abord parce que je n'en avais pas le temps. Ensuite parce que je prévois un deuxième tome où je traiterai le haut.
Claude Pieplu dans une parodie de l'émission Lecture pour tous. Donc voilà cette question. Est-ce qu'un roman, écrire un roman, ça s'apprend ? Apparemment aux États-Unis, c'est plus...
Oui, ça vient des États-Unis.
Ah, oui.
Mais alors, ce qui se passe en France, c'est que depuis que Leïla Slimani, Goncourt, 2016... a déclaré qu'elle avait suivi des cours chez Gallimard, d'ailleurs. Mm-hmm. Et alors, tout le monde s'est précipité pour faire comme elle, pensant avoir le Goncourt l'année prochaine. Alors, j'ai dit tout de suite qu'il faut d'abord beaucoup de... Il faut du talent, mais il faut aussi, effectivement, apprendre à travailler sans talent. On peut effectivement demander des conseils, etc.
Ça va nous servir, ça.
Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et puis, en plus, j'ai l'impression que ça arrange beaucoup certains éditeurs qui ne font pas travailler leurs auteurs. Oui. Alors, ils disent, il vaut mieux que tu suives des cours, comme ça, tu nous donneras une copie impeccable.
Et comment vous voyez le fait que des gens pratiquent en amateur ce qui, pour vous, est un métier ? Plus il y en a, plus ça vous réjouit ?
Tout le monde écrit. Ouais. Alors, vous savez, tout le monde ne peut pas jouer du piano. Bien. Mais tout le monde peut remplir 100 pages, 500 pages, 1000 pages, comme Bruno Le Maire.
Ah oui. C'est la différence, parce que justement, l'article relève que pour peindre, c'est bien d'avoir fait les beaux-arts. C'est vrai que pour jouer du piano, il faut avoir fait l'académie ou le conservatoire. Ça veut dire qu'il y a des techniques pour certaines disciplines, certains arts, et
moi,
pour
j'ai
la
pas
littérature
appris. Moi, ce qui m'a appris à écrire, c'est les épreuves de la vie. C'est 18 mois de prison militaire. C'est les épreuves, les frustrations, la maltraitance. C'est ça qui m'a appris à écrire. C'est pas un prof qui m'a dit voilà comment. Évidemment, après, j'ai travaillé avec mon éditeur. J'ai dit voilà, et je donne le texte, dis-moi ce qui ne va pas. C'est ce que je fais.
Donc, vous conseillez aux jeunes de se faire enfermer vraiment pendant.
Absolument, ça serait très bien. Le confort n'a jamais été fournisseur de talent.
C'est vrai. Tout commence par un accident. C'est vrai que chez vous, vous avez. Enfant, vous avez été alité longtemps, puis il y a eu cette expérience avec l'armée.
Oui, Jean Genet disait que derrière chaque œuvre, il y a un drame caché.
Et c'est d'ailleurs ce que vous expliquez dans votre biographie qui précède cette anthologie chez Gallimard dans la collection Quarto. Tahar Benjelloun, il y a un individu qui vient d'entrer au Salon du Livre devant ce public venu nombreux. Alex
Mais oui, on l'a enfermé.
En plus.
On l'a enfermé pendant une dizaine d'années dans une cave. Il est sorti avec 500 chansons de qualité. Bonjour Frédéric Fromet, de quoi allez-vous nous chanter au Salon du Livre ?
Eh bien bonjour, je voudrais réagir à une étude qui confirme que le roman policier demeure le genre littéraire le plus prisé des lecteurs. Eh bien, il n'y a pas besoin de s'emmerder avec des livres, il suffit de s'intéresser à l'actu. Trop adec, je te couperai. Je te couperai les bras, je te couperai les bras et les jambes. Oui, je sais, quelle horreur. Ah, trop adec, gentil, trop adec, je te couperai. Et l'affaire Théo. Mais qu'est-ce t'as fait à Théo ? Pas là, mais là, pas là, ta matraque. Pas là, mais là, pas là, ça fait mal. Pas là, mais là, pas là, mais t'es fou. Dans Théo, pas là. Mais la pala dans son cul, pala. Mais la pala, ça passe pas, pala. Mais la pala, ouïouïouï. Et cet élu FN qui, pour financer l'hébergement des Roms, a proposé de récupérer leurs dents en or. Week-end chez les Roms, arracher leur couronne. arraché toutes les dents de tous ces gitans. Week-end déconne. Et surtout, que dire des grands classiques de la littérature française ? Ils auraient mieux fait de coller aux affaires financières. Victor Hugo, qu'est-ce qui t'a pris ? On peut pas dire que t'étais visionnaire, sinon t'aurais plutôt écrit Les travailleurs fictifs de la mer. Quand t'as sorti 93, on n'a rien dit au sujet du style, mais pour le titre c'est un peu léger. Fillon t'aurait dit top là pour 900 000. Pauvre Fillon dont les aventures valent mieux qu'un costume offert par Bourgie. J'aurais été la comtesse de Ségur, j'aurais écrit les malheurs de Fifi. Qu'est-ce qui t'a pris Gustave Flaubert avec l'éducation sentimentale? Si tu avais eu un bon père, t'aurais écrit l'éducation avec des petits boulots à 50 000 balles. Ces quelques escrocs qui nous gouvernent mériteraient une punition dans un nouveau roman de Jules Verne intitulé 5 semaines au ballon.
Frédéric Fromet. Merci Frédéric, vous avez toutes les audaces. Merci Tahar Benjelloun d'avoir passé ce moment avec nous, c'était un bonheur.
Merci, Charline,
merci. Merci beaucoup. Je remercie Anne-Sophie Ladonne à la réalisation, oui, à la préparation de l'émission, Nathalie Romero, Sarah Masson, Irène Menahem et Jim, notre stagiaire belge, faut-il le rappeler.
Oui. Il n'est pas payé.
Bah non, il est exploité.
Pourquoi?
Bah
c'est... Mais c'est pas normal ça.
Et alors, ça leur apprend la vie future.
Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Clara Dupont-Mono qui enregistrera ici même demain à 17h l'Amuse-Bouche qui sera diffusée à 19h20 avec son invité qui sera Laurent Sexic. Allez, il faut y aller, le mot de la fin, là c'est parti, hop hop hop.
La plume est plus forte que l'épée.